Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. Ah, j'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ? Allez, on se dit on y va, et puis on y va. Certains vont me dire que c'est facile à dire, puisque parfois, partir, c'est une histoire en soi, parce que ce n'est pas qu'une question de destination, c'est aussi tout ce qu'on laisse derrière. Partir, c'est toujours un voyage, il y a ce qu'on choisit et ce qu'on subit, ce qu'on fantasme et ce qu'on n'avait pas du tout prévu. On ira, le film d'Enya Barou, c'est un peu ça, un road trip, une échappée, une dernière ligne droite et peut-être même un virage. C'est un film qui parle de vie, de famille, de ces silences un peu gênants et de ces moments où on rit alors que l'on ne devrait peut-être pas. Mais surtout, un film qui nous pose cette question. Qu'est-ce qu'on emporte avec nous quand on s'en va et comment est-ce que l'on prépare sa valise ? Aujourd'hui, c'est Enya Barou dans l'entretien du jour puisqu'elle est venue à Laval présenter son tout premier long métrage en avant-première mardi au Cinéville de Laval. Elle nous raconte ce qu'elle y a mis d'elle et tout ce qu'elle espère qu'on y trouvera. Alors, est-ce qu'on y va, Maxime ? Puisque oui, tu es de retour, comment tu vas aujourd'hui ?
Bah, ça va mieux, et toi, Margot ?
Ça va très bien, je suis aussi encore un peu malade, mais ça va très bien se passer. En tout cas, je suis très contente de t'avoir à mes côtés ensemble. On va retrouver notre reportage Pensée locale de la semaine qui nous emmène aujourd'hui en Loire-Atlantique à la découverte de la mer salée. C'est un éditeur reuséen, écologique et optimiste. Voilà ce que je peux vous dire de ce petit temps qu'on passe ensemble, puisque c'est l'agité du local qui commence. Je suis Margot. Alors, on y va pour un moment avec Enya Barou, mais écoutons d'abord un extrait de la bande-annonce du film On ira, qui sortira le 12 mars 2025 au cinéma.
C'est un petit trou de trésorerie temporaire.
Votre découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire.
Et ça, c'est quoi ces 1000 euros-là ?
Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir.
Voilà.
Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse.
Et c'est prévu pour quand, votre...
La semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant.
Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man ?
J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage.
Il y a combien ?
Je peux venir ?
Non, ma chérie.
C'est un truc d'adulte.
C'est un truc d'adulte et t'amènes papa.
Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça, vous.
Je vais trouver le bon moment.
Ma carte bleue passe pas. Je suis prête 10 euros.
Tu veux t'acheter quoi ?
Mais rien
Je vais te donner 10 euros pour t'acheter rien.
C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible.
Ils ont un gros problème de communication.
Ah, c'est vous êtes une experte en communication, vous, hein ? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, hein. C'est les plus belles vacances de ma vie.
Enya Barou, vous êtes à Laval pour présenter en avant-première votre film « On ira » qui aborde la question de la fin de vie. Alors, c'est un thème intime et universel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet ?
En fait, moi, j'ai voulu faire un film pour rendre hommage à ma grand-mère. J'étais très, très proche d'elle. On était très, très fusionnels, un peu comme Marie et Anna peuvent l'être dans le film. Et en fait, quand elle est partie, elle a eu une longue maladie, elle est décédée. Et ça a été vraiment une fin de vie assez triste, assez... banal, c'est pas le mot, mais voilà, comme on connaît en France, à l'hôpital, ça a été long et tout, ça m'a beaucoup marqué. Et ma grand-mère était quelqu'un de très joyeux, très indépendant, très autonome. Et donc j'ai voulu écrire un film pour modifier, corriger sa fin de vie et lui rendre un hommage et lui offrir une fin de vie plus à son image. Voilà.
Sans trop en dévoiler, mais pour en dire quelques mots à l'auditeur de l'autre radio, qu'est-ce que nous raconte votre film ?
Ouais, c'est l'histoire de Marie, une grand-mère de 80 ans qui est malade, qui en a marre et qui veut finir ses jours en Suisse en ayant recours au suicide assisté. Et ne sachant comment l'annoncer à sa famille, elle va leur inventer une histoire d'un héritage à récupérer dans une banque à Zurich. Et voilà, sa famille étant bras cassés, un peu sans le sou, vont partir avec elle en camping-car, persuadée de devenir riche.
On parle de quelque chose de fort, mais le ton du film reste plutôt empreint de légèreté. C'était important, ça, pour vous ?
Ouais, c'était essentiel même de réussir à traiter ce sujet-là sous la forme d'une comédie. Moi, justement, ma grand-mère avait beaucoup d'humour. J'ai grandi dans un milieu, dans ma famille, où on rigolait beaucoup des choses graves. Et moi, j'avais besoin de me réconcilier avec ce sujet-là. Et il était hors de question de le traiter de manière dramatique. Il fallait absolument qu'on puisse rire de ça. Donc, ouais, c'était très important.
Et à la fois, il aborde des liens familiaux complexes, des choses importantes se jouent. Je voudrais qu'on parle de Marie. Est-ce que vous avez été puisée dans la personnalité de votre grand-mère pour construire votre personnage ?
Non, je suis complètement allée chercher chez ma grand-mère le personnage de Marie. C'est vraiment le sosie de ma grand-mère, que ce soit physiquement, même dans la personnalité. Anna est complètement inspirée de moi. Et après, c'est plus sur le personnage de Bruno, qui est largement, avec beaucoup de liberté, inspirée de mon père. Mais vraiment, j'ai grossi tous les traits pour rendre les choses plus drôles. Et puis Rudy est un personnage complètement inventé, mais qui, je crois, représente un... C'est un peu un personnage mystique, Rudy, je trouve. Il a un truc de passeur, quoi. Voilà, je raconte pas le film, mais en tout cas, il va aider cette famille à aller mieux, je crois.
Chaque personnage représente une génération avec ses problématiques, mais on peut parler de classe sociale aussi.
Tout à fait, oui, on voulait exactement avoir des problèmes intergénérationnels et puis des problèmes voilà, de classe sociale aussi. C'est vrai qu'on représente une famille qui n'a pas forcément beaucoup d'argent et ça, c'était important pour moi parce que moi, ma grand-mère, elle vient de ce milieu-là. Et Rudy, effectivement, a des problèmes... ils ont tous un peu des problèmes d'argent, des problèmes entre eux, des problèmes familiaux, des problèmes d'adolescence. Et c'était important pour moi voilà, de montrer que malgré ces problèmes, on est tous, on peut tous se projeter dans ces relations familiales-là, en fait. C'est assez universel et je crois que justement la galère fait qu'on connecte plus, enfin il y a un truc de on se projette plus, on s'attache plus facilement à eux parce que dans la galère on arrive à trouver de l'amour et du lien et voilà.
Tous les personnages n'ont pas la même position sur cette question du suicide assisté, aussi et surtout parce qu'ils sont confrontés, ils y sont confrontés directement. Est-ce que dans la manière de raconter cette histoire, de la filmer, vous vous êtes posé la question de la justesse ? Parce que c'est pas évident de s'adresser à un public sur un sujet où en France, typiquement, c'est pas encore légal.
Justement, je crois que c'est en passant par en donnant la parole à ces personnages et en leur donnant des arguments que pourrait avoir le spectateur. Donc y a des personnages qui sont effectivement plus ou moins pour ou contre. Et je crois qu'en fait, on leur montre un panel de décisions, un panel d'avis avec plusieurs arguments. Et je crois qu'en fait, il ne s'agissait pas de montrer des personnages pour ou contre, mais de montrer des personnages bousculés par cette question. Et je crois qu'on l'est tous, en fait, bousculés par cette question de la fin de vie, de qu'est-ce qu'on fait de notre fin de vie, de nos parents, de nos grands-parents. Et c'était important pour moi de montrer qu'il n'y avait pas une bonne décision, qu'il n'y avait pas... En fait, on ne sait pas, et les personnages ne savent pas non plus, ils vont à l'instinct. Et voilà, je crois que... C'est important pour moi que le film soit pas moralisateur et qu'on montre pas le chemin à suivre. C'est un film qui doit ouvrir la discussion entre nous et dans les familles, quoi, surtout.
Parlons un peu du casting. Est-ce que le choix des comédiens est évident ou est-ce que ça a été plus complexe que ça ?
En fait, il y a deux teams. Il y a d'abord Hélène et Pierre qui ont été choisis il y a bien longtemps parce que Hélène a accepté de jouer dans le film 5 ans avant que le film se tourne. Et elle a attendu patiemment que le scénario se finance, que le film existe. Et puis moi, quand j'y croyais pas, elle me soutenait tout le temps, donc c'était chouette. Hélène, c'était évident parce que j'étais fan d'elle depuis toute petite. Elle ressemble beaucoup à ma grand-mère en plus. Et je savais qu'elle avait déjà fait un film sur ce sujet-là, donc je savais qu'elle était plutôt militante sur ce sujet et donc qu'elle n'allait pas être effrayée par l'histoire, quoi. Pierre, j'ai travaillé avec lui, donc je le connaissais bien également et je rêvais de tourner avec lui depuis très longtemps. Et puis cette année, il a vraiment prouvé, il n'avait pas besoin de le prouver, on le savait, mais en tout cas que voilà, c'est un acteur qui sait tout faire, quoi, franchement, et qui sait surtout aller de la comédie au drame. Et c'était important pour ce personnage de Rudy. Et sont arrivés bien plus tard, donc vraiment juste quelques mois avant le tournage, David Ayala et Juliette Gasquet. David que j'ai découvert dans la série D'Argent et de Sang, qui est fabuleux, que j'avais encore jamais vu dans un rôle... un premier rôle au cinéma et je pense que vraiment j'ai hâte qu'on le voit, quoi. Et Juliette qui a passé un casting parmi une trentaine de jeunes filles et elle l'a obtenue haut la main parce qu'elle a une force de jeu incroyable.
Et en ce qui concerne la direction d'acteur, comment est-ce que vous avez travaillé ? J'ai beaucoup d'échanges, j'imagine, entre ce que vous écrivez et peut-être la proposition aussi de l'acteur ?
Oui, c'est un échange, c'est clair. Et puis, je pense que j'avais mon film en tête depuis 7 ans, parce qu'il a mis 7 ans à se faire. Donc, j'avais quand même une idée très précise de ce que je voulais. Et je crois que, partant du principe que cette histoire parlait de ma grand-mère et qu'il y avait quelque chose d'assez intime dans mon récit, les acteurs ont complètement joué le jeu de rentrer dans ce que je voulais et n'ont pas essayé de m'imposer quelque chose. Ils ont tous suivi vraiment mes envies, mon idée du personnage, tout en amenant quand même leur interprétation. Et ça, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Moi, je veux dire, moi, j'arrive avec un scénario, une idée, des références, des images de ma grand-mère, des anecdotes à leur raconter sur comment je vois les personnages. Et puis, eux, ils arrivent avec une interprétation qui est la leur. Et voilà, je crois qu'en fait, ils m'ont fait confiance. Je crois qu'il y a un rapport de confiance à établir entre un réalisateur et des acteurs. Et que ce rapport de confiance peut exister seulement quand on est un peu sûr de soi et qu'on n'est pas tâtonnant dans la direction d'acteur. Et je crois que, ayant déjà joué dans des choses et ayant été assistante sur des tournages, j'ai déjà vu des réalisateurs tâtonner avec leurs acteurs et voir que les acteurs n'étaient pas en confiance et qu'il n'y a rien de pire qu'un acteur pas en confiance. Donc je savais ça. Et je suis arrivée assez sûre de moi, en vrai, en façade, hein, parce qu'à l'intérieur, j'étais, voilà, j'avais peur, parce que c'est des acteurs qui ont tourné beaucoup avec des grands metteurs en scène, donc moi, c'est mon premier film. Mais je crois que voilà, ils ont apprécié que je sache où je les emmène, quoi.
Alors, 7 ans pour que ce film puisse voir le jour, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de baisser les bras ?
Oui, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, je crois que là, il faut que j'arrête. C'est vraiment, on n'arrivait pas à avoir le financement de ce film, on ne trouvait pas d'argent, le sujet était trop difficile, on nous disait qu'on ne pouvait pas rire de ce sujet-là. Et ça m'a vraiment déprimée parce que j'ai trouvé qu'on sous-estimait beaucoup les spectateurs. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui me fait rire. Je crois que les spectateurs, si on leur tend des perches pour rire de même des sujets les plus graves, ils sont OK, en fait. Et on nous dit souvent que... Voilà, les spectateurs, il faut leur donner ça aussi. Et les recettes sont déjà, les recettes marketing sont très, très écrites à l'avance. Et je trouve ça un peu, ça m'a un peu démoralisée pendant un temps. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire un programme court qui s'appelle Fleur Bleue, que je fais à côté, et qui était beaucoup plus rapide à tourner, qui coûtait pas très cher. Donc, en fait, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse autre chose, que je mette mon énergie ailleurs pour retrouver l'envie d'avoir la patience pour mon film, parce que ça faisait déjà 5 ans que ça ramait, quoi. Et donc mon programme court a pris et ça s'est bien passé. On en a fait un truc génial qui a beaucoup de spectateurs aussi. Donc je crois que Fleur Bleue, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur de mon film. Et les deux se sont entraînés, se sont soutenus, tirés vers le haut. Et une fois que je suis passée à Fleur Bleue, l'année d'après, mon film s'est fait. Donc je dirais que j'ai été patiente, mais aussi parce qu'il y a un moment où j'ai mis mon énergie dans autre chose et je suis revenue plus tard à ce projet-là, quoi.
C'est un sujet pas facile pour convaincre les producteurs, pour pouvoir le traiter sous forme de comédie, vous nous l'avez dit. Quelle place a le cinéma dans votre vie, dans la manière d'exorciser peut-être des émotions, ou aussi, comme ici, de nous amener à nous poser des questions, tout simplement ?
Bah, je crois que voilà, moi, j'ai un rapport exactement comme ça au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de... Quand je traverse des émotions dans ma vie, que ce soit des deuils, des ruptures, des choses joyeuses aussi, j'ai besoin d'avoir ce référent, de me dire, en fait, il y a des œuvres qui vont me montrer le chemin, qui vont m'expliquer des choses, qui vont me faire du bien, qui vont... C'est Albert Camus qui disait que créer, c'est vivre deux fois. Moi, j'ai l'impression qu'aller au cinéma, c'est vivre plusieurs fois, c'est vivre des choses qu'on a peut-être déjà traversées, ça nous fait du bien. Et moi, c'est vrai que je suis très, très fan de deux réalisateurs dans le cinéma français que sont Éric Toledano et Olivier Nakache, parce qu'ils ont cette capacité folle à traiter de sujets qui sont, dans le fond, très, très sérieux, que ce soit l'autisme ou que ce soit le handicap dans Intouchable. Et c'est les films où on rigole le plus et où on pleure aussi et on en sort avec une espèce de lumière en se disant, OK, j'en sors joyeux, quoi. Et pour autant, le sujet est dur. Donc, je crois qu'en fait, on a besoin de se réconcilier avec des sujets de société qui nous font peur, qui sont sensibles. Et moi, c'est ce genre de cinéma que j'aime. Et pour autant, j'aime aussi des films qui traitent vraiment juste, qui sont juste du divertissement et qui ont juste vocation à nous faire rire sans forcément qu'il y ait un sujet de fond. Moi, c'est ce que j'aime. Pour moi, maintenant, je trouve que voilà, tous les cinémas, il y a des spectateurs pour toutes sortes de films, en fait.
Alors là, on se rencontre aujourd'hui au cinéma, au Cinéville de Laval, exactement. L'époque fait que l'on expérimente de plus en plus les films ou même les séries chez soi, seul dans son canapé. Le cinéma était avant tout un partage collectif. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce changement-là ?
Je trouve ça triste et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Je trouve ça en même temps chouette parce que il y a de plus en plus de choses à dévorer dans son lit et c'est confortable et il y a de plus en plus de séries qui se créent. Et la série a vraiment pris le pas. Avant, c'était un peu un second genre. La série, c'était quelque chose de un sous-média, quoi. Quand on arrive, il y a des réalisateurs qui n'arrivaient pas à faire de films, alors ils se mettaient à faire de la série. Aujourd'hui, la série, on a des grands réalisateurs qui font de la série. C'est un genre c'est un mode de fiction qui est génial, qui a pris une place incroyable. Je crois quand même que pour ce qui est des films, le mode de visionnage collectif dans une salle de cinéma dans le noir est tellement plus joyeux et tellement plus nous connecte tellement plus les uns les autres. Et dans une société aujourd'hui où quand même les ruptures entre les gens, les clivages entre les gens sont de plus en plus grands et où la société est quand même très fracturée, je trouve ça dommage de pas se servir de cet espace-là pour essayer de reconnecter tous ensemble. Et je crois qu'être 300 personnes dans le noir à regarder la même chose dans le silence, c'est quand même une expérience qu'on peut pas revivre chez soi devant un ordinateur, quoi.
Ce film a déjà été présenté en festival. Quel a été le retour du public ? Qu'est-ce que vous espériez ? Qu'est-ce que vous espérez encore, justement, comme retour ?
Alors, j'espérais franchement rien. J'y suis allée en me disant, je suis sélectionnée déjà dans un festival de comédie, ce qui est une récompense déjà énorme pour moi qui ait traité ce sujet-là. Où justement, on m'a dit pendant 7 ans que ça allait pas être possible de rire. Donc, c'était ma récompense. Ensuite, je me disais, la salle de l'Alpe d'Huez, c'est un mélange de gens du milieu et un mélange de public. Donc, j'étais très concentrée sur la partie arrière derrière moi qui était les gens du public en me disant, c'est eux que je veux entendre parce que les gens du milieu, finalement, ça m'intéresse. Mais en vrai, moi, je veux faire ce film pour les gens, pour le public, quoi, pas pour les gens du milieu du cinéma. Donc j'entendais des rires. Et puis après, beaucoup d'émotions. Les gens étaient très, très bienveillants. Il y a eu un accueil franchement super chouette qui est à peu près le même accueil que celui que je reçois en tournée, là, depuis quelques jours. Et bah, c'est inespéré, en fait. C'est au-delà de mes espérances. Hein. Je me dis, je viens avec ce film, je viens en tournée, je suis pas avec des comédiens, je suis toute seule. Le film, les gens se déplacent parce qu'ils ont sûrement vu la bande-annonce. Voilà, mais on n'a pas encore fait... on n'a pas placardé mon film dans toute la France. Et juste, les gens sont attirés par le sujet, viennent avec beaucoup de témoignages, beaucoup de bienveillance. Il y a même des gens qui sont complètement contre, a priori, le sujet du suicide assisté. Et pour autant, qui me disent, bah, en fait, ça me fait réfléchir, pas forcément à devenir pour, mais en tout cas, ça fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait de notre fin de vie, pourquoi la fin de vie, c'est pas le moment où on est le plus en vie, ou le moment où on a envie le plus de vivre, de profiter le plus, en fait. Et c'est très touchant. Donc là, je vis ma meilleure vie. Franchement, je rencontre les gens. C'est génial. Je suis trop contente.
L'aventure de ce film n'est pas encore finie puisque vous l'accompagnez aujourd'hui à travers la France. Mais est-ce qu'il y a déjà un autre projet peut-être qui germe dans votre tête ?
Il y a des envies, ouais, ça c'est sûr. J'aimerais bien développer Fleur Bleue, qui est mon programme court, et essayer d'en faire autre chose. J'ai envie de faire un deuxième film, mais je crois que déjà j'ai envie d'accompagner mon enfant qui est ce film. On ira là jusqu'au bout de la tournée et voilà, et ça demande de l'énergie et j'ai envie de le soutenir au maximum. Et puis surtout, quand je vais me mettre à écrire un deuxième film, j'ai envie de le faire avec autant de patience et de passion et de volonté que le premier. Et pour ça, il faut trouver le sujet qui vous anime suffisamment. Donc je prends mon temps. Ouais.
Et pour terminer, alors qu'est-ce qu'on peut dire à l'auditeur de l'autre radio pour qu'il vienne voir votre film ?
Bah, si vous avez peur de la fin de vie, la mort, la maladie, et que vous avez envie de rire un peu et de vous projeter dans une famille qui va sûrement ressembler à la vôtre, bah venez.
Merci beaucoup, Enya, de nous avoir accordé ce temps.
Merci à vous.
L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local continue dans quelques instants. Maxime, on fait une pause d'abord.
On va s'envoler dans la musique avec Bird of High Feather de Billie Eilish. Cause it was always you.
Fondée en 2013 et ancrée à Trente-Moult, la mer Salée est née d'un projet audacieux, allié impression écologique et production locale. L'idée était simple mais ambitieuse, concevoir et produire dans un rayon de moins de 100 km en s'appuyant sur un réseau d'artisans locaux. Alors depuis ses débuts, la mer Salée s'engage à dessiner un avenir empreint de bienveillance et d'espoir. Avec des projets comme Les Utopiennes, la mer Salée repense le monde. Ses publications cultivent un imaginaire positif en mettant en lumière des visions optimistes du futur pour une humanité consciente et actrice du progrès écologique. C'est Henri Landré de Jet FM qui signe ce reportage et qui est allé à la rencontre de Sandrine Roudeau, cofondatrice des éditions La Mer Salée. Écoutez.
Pensée locale. Spécial forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire.
Je m'appelle Sandrine Roudeau, j'ai cofondé les éditions La Mer Salée en 2013. Nous sommes basés à Trente-Moult, donc près de Nantes. L'idée de départ, c'était vraiment à la fois l'écologie et à la fois le local, les deux étant liés. On a monté cette maison notamment parce qu'on voulait écrire des livres et en regardant les autres maisons d'édition, on s'est dit qu'on voulait maîtriser où étaient fabriqués et comment étaient fabriqués nos livres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'impressions faites dans les pays de l'Est ou en Chine, dans des conditions terribles écologiquement, avec les pollutions des eaux, du sol, une gestion du papier qui n'est absolument pas durable. Donc on a monté la mer Salée en se disant on va tout faire à moins de 100 km. Donc notre imprimeur, on en a eu plusieurs, parce que c'est pas simple en fait d'imprimer du livre, c'est pas du tout la même chose que le reste. Plus croisé avec nos exigences écologiques, c'était encore plus compliqué. Donc on a essuyé quelques plâtres, et puis aujourd'hui on travaille avec O75 qui est en Vendée, donc à moins de 100 km. On a à cœur de travailler avec un réseau, nous qu'on estime être un réseau d'artisans locaux. Donc c'est pareil pour la mise en page, on travaille avec PCA qui est là pour le coup arrosé à 3 km, qui travaille également, qui est un des trois grands metteurs en page français. On y va, on parle des mises en page, voilà, de tout ce qui fait la valeur ajoutée de leur travail et pas simplement un prix. Et donc, ils sont très soutenants pour nous, parce qu'on a voulu aussi commencer dès le départ avec des gens professionnels. On n'a pas voulu faire notre mise en page en interne et tout ça. Si je reviens sur l'attention de la mer Salée, c'est aussi une utopie, c'est-à-dire qu'on voulait faire les livres d'une manière qui nous convienne, en termes d'écologie et en termes de qualité. C'est pour ça qu'on a mis le prix dès le départ sur le metteur en page, sur une graphiste, etc. On n'a pas voulu faire des économies au détriment de la qualité parce qu'on trouve que le livre est quelque chose de précieux. On veut montrer qu'un autre monde meilleur est possible dans le futur puisqu'on est envahi de dystopie et qu'en gros tout le monde nous dit ben, « résignez-vous les gens parce que de toute façon c'est plié, voilà, ce sera soit l'effondrement, la poursuite des violences, ou on va tous sur Mars et la high-tech va nous sauver », ce qui est une grosse illusion aussi. Et on n'a pas d'imaginaire qui nous dise « mais regardez, en fait un autre monde est possible ». Et surprise, il est apaisant, il est chouette en fait, c'est pas parce que... Il n'y a pas la 15G, au contraire même. Ce qui nous intéresse à la fin d'un livre de la mer Salée, et notamment des utopiennes, c'est de se dire qu'est-ce que ça donne comme image de l'humanité. Pas une image idéalisée, niaisouille, mais de la tendresse pour nos faiblesses, montrer qu'on est une grande famille, que ça induise de la bienveillance. On ne dit pas bienveillance, mais ça induit de la bienveillance, en fait, sur, bah oui, on peut être loyal, et puis le lendemain, être lâche, et puis en même temps, en fait, on est beau, et on est belle. Et ça, tu l'as pas tellement, en fait, dans les livres. Et ça, c'est peut-être le truc qui me révolte le plus, c'est qu'il y a un sabotage en règle de la foi en l'humanité, et que je trouve extrêmement manipulatoire, et qui profite au statu quo, et au modèle conservateur, qui nous mène droit dans le mur, quoi, en fait. En disant, l'homme est un loup pour l'homme, on sait qui ça profite... au top de la meute, quoi. Donc, forcément. Comme on n'avait pas beaucoup de manuscrits, c'est pour ça qu'on a lancé les Utopiennes. Il y a très peu de gens qui, en fait, écrivent de l'utopie. Il y en a très, très peu. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller chercher des gens de talent, mais qui étaient plutôt dans un truc sombre, parce que c'est aussi très fascinant. Et de leur dire, je leur fais mon laïus, là, je les interpelle en disant, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous nourrissez? Vous nourrissez quelle face de l'humanité? Est-ce que vous nourrissez notre joie et notre détermination et notre audace et notre envie de résister et de se dire, bah ouais, non, en fait, tu vois, on va faire mentir les pires pronostics et puis on va arrêter de se laisser faire. Ou est-ce que tu nourris la peur, la tristesse, la sidération, cette espèce de truc glauque, là, cette face obscure, quoi. Et dans ce cas-là, à qui ça profite ? Donc c'était aussi pour ça, pour interpeller ces auteurs-là, ces autrices, avec l'espoir que peut-être ils aillent plus loin, et puis à la fois pour leur œuvre habituelle, et puis peut-être pour qu'ils viennent aussi travailler avec nous. C'était aussi un des objectifs des Utopiennes, c'était aussi de rencontrer un maximum d'auteurs et d'autrices qui voient comment on travaille et qui ont envie de travailler avec nous plus largement.
Entretien réalisé par Henri Landré pour Jet FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission réalisée dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, le 7 mars 2025, dans les Halles 1 et 2, sur l'île de Nantes.
On arrive déjà bientôt au bout de l'émission, mais on peut prendre le temps encore un peu avant de se quitter. Et si on prolongeait en musique, Maxime ?
On va écouter C'est magnifique de Sylvia Bennett.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragique. But when once more he whispers je t'adore, c'est magnifique.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Inyamaru Barou d'avoir été à notre micro. Merci au Cinéville de Laval pour son accueil et merci à toi Maxime. Je suis très contente de t'avoir de nouveau à mes côtés. Qu'est-ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio ?
La soirée commence à 19h avec Eldorado, une émission qui vous plonge dans l'univers du folk et du rock avec Pierre Lemarchand.
Et à 21h, ça continue.
Oui Margot, on rentre dans le monde du jazz avec Old Blues.
Merci Maxime. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Ce sera déjà la dernière de la semaine, ce sera donc le grand format. Vous le savez bien, et cette semaine on termine avec Léo Boufflet, musicien, technicien son, programmateur et coprésident de l'association Party Teuf. C'est un vrai plaisir de le recevoir, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez une grande inspiration pour accueillir tout ce qui vous attend pour terminer cette semaine et laisser partir ce qui n'a plus sa place. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.